Série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 70. Réseau White Tiger 764. Un an de procès pour Shahryar G, dit Tigre Blanc, adepte du réseau 764. Le 9 janvier 2026, s'est ouvert à Hambourg le procès de Shahryar G, J, 21 ans, connu sous le pseudo de Tigre Blanc. L'accusé fait face à 204 chefs d'accusation commis entre janvier 2021 et septembre 2023 sur plus de 30 enfants et adolescents. 82 dates d'audience sont prévues pour le procès qui promet de s'étaler jusqu'en décembre 2026. L'enquête a révélé l'horreur d'un réseau pédocriminel, cybercriminel, auquel il appartenait, le 764. Depuis son inculpation, le FBI n'a de cesse de traquer cette nouvelle forme d'ultra-violence. L'affaire qui met le feu aux poudres. 17 janvier 2022. Eva, le prénom a été changé, a 12 ans lorsqu'elle entre en contact avec un jeune américain de la côte ouest, Jay Taylor. Elle-même habite en Europe du Nord. Les deux ados, très fragiles, se retrouvent sur un forum dédié aux personnes qui se battent contre l'automutilation. Eva est déjà enrôlée par celui qui se fait appeler Tigre Blanc. Depuis 7 mois, il la harcèle en ligne. Elle a déjà cédé à certaines de ses demandes. Il a en sa possession des photos compromettantes de la fillette, de quoi faire chanter et obtenir toujours plus. Plus jusqu'où? Le tigre, entre guillemets, exige son suicide en direct. Il lui envoie un manuel d'instruction à ce sujet. L'emprise qu'il a sur Eva est totale, mais du haut de ses 12 ans, la petite n'est pas candidate au suicide. Alors, pour apaiser le tigre, elle cherche à lui fournir une autre victime. Jay a 13 ans et souffre d'une dysphorie de genre. Dans l'année de ses 12 ans, anorexie, dépression, automutilation inquiètent ses parents. L'enfant suit une thérapie à Seattle, donc dans le nord-ouest américain, et semble aller mieux, mais son comportement reste instable. Il demande à ses parents de le surveiller, de lui prendre son téléphone. Les parents de Jay fixent avec lui des règles d'utilisation de ses appareils numériques. Le 17 janvier 2022, Eva contacte Jay et lui envoie le manuel d'instruction sur le suicide, puis ils en discutent sur la plateforme Discord. Donc une plateforme qui est pour les gamers au départ, enfin voilà, tous les jeunes connaissent, mais les vieux connaissent pas évidemment. Il faudra 2 heures à la jeune fille pour convaincre Jay de passer à l'acte. Par 3 fois, il affirme ne plus avoir d'idées suicidaires. Mais Eva a été bien formée. En désespoir de cause, elle propose au garçon de se tuer avec lui. C'est un de ses derniers messages. « Surtout ne te suicide pas sans moi », lui écrit-il. Elle a gagné. Pour Jay, il est 2h30 du matin, il s'éclipse de la maison, passe devant sa mère endormie, il emporte une rallonge électrique blanche au passage. Au même moment, Eva crée un groupe sur Instagram pour diffuser le suicide en direct. Lorsque l'appel Instagram débute, Shahryar J, dit le tigre blanc, prend le contrôle de la conversation. Jay Taylor s'arrête à environ 15 minutes à pied de chez lui, à quelques mètres des conteneurs à ordures et du quai de chargement des camions d'un supermarché. Il se place devant une clôture grillagée. « Tu as une corde ?» s'inquiète Shahryar. Il exige que Jay se déshabille, mais l'adolescent garde son t-shirt noir et blanc. Il pose son iPhone au sol devant lui et de manière à filmer son visage et le haut de son corps, il attache la rallonge électrique à la clôture. Puis il passe un nœud coulant autour de son cou. Alors que Jay lutte pour sa vie, d'autres utilisateurs rejoignent la diffusion en direct. 6 minutes plus tard, Jay est mort. Dans les secondes qui suivent, les témoins se moquent de lui, l'insultent avec des propos transphobes et affirment qu'il ne méritait rien de moins. Shahryar J conserve une copie de la vidéo. Intervient alors une autre jeune fille australienne, ancienne victime d'un réseau similaire. La vidéo de Jay qu'elle découvre la révolte. Elle découvre sur Discord un camarade de classe de Jay qui lui donne les coordonnées de son père. Puis elle transmet alors la vidéo, lui-même l'envoie ainsi que toutes les autres preuves au commissariat de police de Gig Harbour, donc là en Australie. Les enquêteurs comprennent que la mort de Jay cache autre chose qu'un suicide, ils font appel à 2 agents du FBI, c'est le début de l'enquête sur Shahryar J. Une trop longue enquête. Shahryar est connu des services de police depuis 2021. Âgé de 16 ans, il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour possession présumée de pornographie infantile, à 16 ans, suite à un signalement du Centre National Américain pour les Enfants Disparus et Exploités, NCMEC. Le NCMEC avait transmis un document d'environ 40 pages aux autorités allemandes, contenant des transcriptions de chats de la plateforme en ligne Discord, dans lequel White Tiger exigeait des photos de 2 jeunes filles, les exhortant à se faire du mal en leur suggérant de se suicider. Convoqué en novembre 2021 par la police de Hambourg, donc c'est la ville qui est tout au nord de l'Allemagne, il reconnaît au cours de l'interrogatoire avoir discuté avec 2 mineurs sur la plateforme Discord sous le pseudonyme White Tiger et avoir tenu des conversations à caractère pédopornographique. 3 jours après cet interrogatoire, les poursuites sont abandonnées, l'infraction constatée n'étant pas suffisante. Classico, classico. Deux mois et demi plus tard, Jay, 12 ans, est conduit au suicide. Qu'il faille attendre juin 2025, soit 3 ans pour que soit arrêté le tigre blanc, suscite des questions. Les autorités allemandes auraient-elles pu agir plus tôt et empêcher ce drame? Bon, là, je suis désolé, je vais juste faire une parenthèse. Donc, c'est un article qui est une synthèse aussi d'articles mainstream. Nous, on se pose pas de ces... Enfin, comment dire? C'est des choses qui ont cours, en fait, sur le Darknet. Si on y a des lives de viol d'enfants, pourquoi il n'y aurait pas des lives de meurtre d'enfants et pourquoi il n'y aurait pas des lives de poussée? Là, c'est parce que l'enfant le fait lui-même que c'est horrible? Parce qu'on le pousse au suicide, c'est horrible. C'est encore beaucoup plus horrible que s'il y a quelqu'un à côté de lui qui le tue. Enfin, il y a un petit décalage. Passons. Fustiger l'appareil policier est facile. Qu'en est-il du terrain et des difficultés rencontrées? Suite à la mort de Jay, ses parents entreprennent immédiatement d'alerter et de prévenir sur la dangerosité monstrueuse qui peut sortir de certains réseaux sociaux. Ils confient tout le matériel informatique de leur fils à la police locale pour lui permettre de tracer et de découvrir ce qui a conduit au drame. La police remet les appareils entre les mains du FBI. Deux agents, dont un certain Mac Monigle, s'investissent totalement dans l'enquête et entament des recherches, mais ils sont vite bloqués aux portes de Discord. Là, on est censé rigoler. Il leur faut un mandat pour fouiller la plateforme, mais il n'existe pas de vocabulaire pour qualifier le suicide de Jay, agression virtuelle, homicide numérique. Il n'y a pas de précédent. Ils doivent trouver un moyen de convaincre le procureur et cherchent, dans les fichiers auxquels ils ont accès, des délits punis par la loi pour obtenir un mandat. Alors, effectivement, juridiquement, c'est une autre affaire. Ils se servent de vidéos d'actes de torture sur les animaux, punis par la loi américaine, et retrouvent également une ancienne affaire impliquant une femme condamnée en 2017 pour homicide involontaire pour avoir encouragé son petit ami à se suicider via des appels et des SMS. Rien n'y fait, le procureur refuse d'ouvrir une enquête par manque de preuves. C'est une blague. C'est une blague. On n'a pas l'historique Discord sur l'ordinateur du petit? Des converses? Je sais pas. Les agents continuent leurs recherches. Ils essuient un deuxième refus au bout de quelques mois, mais finissent par décrocher un mandat auprès d'un procureur adjoint. À l'été 2022, le FBI a remonté la piste jusqu'au domicile de Charrière à Hambourg, mais les preuves recueillies sortent de la juridiction des agents fédéraux. Malgré le refus de leurs supérieurs, ils se rendent en Allemagne avec le dossier de preuves collecté afin que le meurtrier de Jay soit arrêté par les autorités allemandes. En février 2023, les deux enquêteurs du FBI présentent au quartier général de la police de Hambourg un PowerPoint de 2 heures devant une douzaine de procureurs allemands et la police locale et fédérale. La présentation comprend les messages du chat précédant la mort du jeune garçon, des vidéos du tigre blanc torturant à distance d'autres enfants et les liens établis entre le pseudo et l'étudiant Charriard résidant à Hambourg. L'enquêteur MC Monigel sent pourtant, à l'issue de la réunion, que les autorités allemandes ne sont pas décidées à bouger. Son dépit est douloureux et il ne se remettra pas de ce qu'il perçoit comme un échec. Je cite, nous leur avions donné tout ce que nous avions, y compris l'identité réelle de White Tiger et tant de données, a-t-il déclaré. Fin de citation. Pendant des mois, il avait étudié le tigre blanc et des vidéos de ses essais victimes. En septembre 2023, la police de Hambourg fouille le domicile de Charriard à la recherche de contenu pédopornographique et saisit ses ordinateurs. L'accusé de meurtre déposé par le FBI n'avait pas été retenu par manque de preuves fiables. Alors, juste ça, mais une perquise pour contenu pédo, enfin, c'est. Si le gars est pas au courant et s'il a un peu la... enfin s'il a aucun moyen de le savoir à l'avance, honnêtement, il y a moyen de mettre trop de gens sous les verrous et après tu cherches et après tu fais ton enquête et après tu vois s'il y a un réseau et après tu vois s'il y a d'autres choses. Mais bon, il y a quand même beaucoup qui en ont forcément chez eux hein, ou qui ont des connexions. Enfin, vous voyez, il y a quand même c'est un joli prétexte pour aller défoncer des portes et voir un peu s'il y a des réseaux hein, quand on se doute qu'il y a plus parce que c'est dingue avec les profils des gens quoi. Bon, passons. Le retour aux États-Unis de MC Monigle est suivi d'une terrible période de dépression. La pensée de nouvelles victimes ne le quitte pas. Il commence à faire des cauchemars de Charriard, de ses propres enfants blessés. Il boit trop et développe un tremblement de son bras gauche. Donc ça, c'est le policier, c'est ça? Il demande et obtient un changement d'affectation dans un emploi administratif. Ah, carrément, il a jeté l'éponge. En juin 2024, il quitte définitivement le FBI. Le 18 juin 2025, 3 ans et demi après la mort de Jay, Mac Monigle reçoit un texto d'un ancien collègue. La police allemande a arrêté Charriard. Sur les appareils saisis se trouvaient des téraoctets de visuels, dont 127 heures de vidéos, des décapitations d'animaux, des enfants maltraités. Le tigre blanc est accusé à ce moment-là de 123 chefs d'accusation d'abus sexuels et de violence. Pourquoi a-t-il fallu 2 ans et demi à partir de la réunion avec le FBI pour arrêter Charriard? À cette question posée lors de la conférence de presse, le chef de l'office de police criminelle de l'État, Jan Hieber, H-I-E-B-E-R, déclare que les preuves du FBI n'étaient pas recevables devant les tribunaux allemands. Par conséquent, l'enquête ici à Hambourg a dû être commencée à partir de zéro. Ouais, enfin quand même. Quand même. Il a fallu à la police allemande analyser de nouveau méticuleusement des centaines de captures d'écran et d'enregistrements vidéo pour obtenir un mandat d'arrêt. Bah non, les autres ils l'ont fait, tu le mets dans ton dossier, me dis pas. Ah, le format il est pas bon, ah, le format il est pas bon. Et puis même, tu leur expliques, c'est des humains. Enfin, c'est fou. Les autorités allemandes reconnaissent par ailleurs n'avoir aucune expérience du phénomène des réseaux sadiques organisés en ligne. Bah voyons. Alors je vous remets les vidéos d'il y a 10 ans de la police française qui ose plus dire ça aujourd'hui. Le lendemain, et puis il y en a eu d'autres des réseaux en Allemagne. Enfin, allez voir sur notre site, dans les réseaux, il y a eu d'autres réseaux en Allemagne de ce genre. Il y a déjà eu des enquêtes, enfin, n'importe quoi. Après, je veux bien que ce soit par Länder et que Hambourg peut-être pas. Et qui coopère pas du tout entre polices de différents Länder. Enfin, Bref. Le lendemain de l'arrestation, les procureurs allemands ajoutent 80 accusations criminelles contre Charrière et portent à plus de 30 le nombre d'adolescents violentés. Les nouvelles accusations comprennent 5 tentatives de meurtre. Reste au procureur la tâche juridiquement compliquée de condamner Charrière de meurtre par des moyens doublement indirects, Eva et Jay lui-même. Oui, mais tous mineurs. Tous mineurs. L'avocate de Charrière a déjà annoncé que les allégations pour meurtre n'étaient pas tenables. Verdict fin 2026. Et on tâchera de vous faire suivre cette affaire. Le Tigre Blanc et le réseau 764. Donc ça, c'était juste une affaire qui a fait déprayer la presse en Allemagne. Mais en fait, c'est pas une affaire isolée. Donc le Tigre Beau est le pseudo que s'est donné un étudiant germano-iranien, fils d'un couple aisé résidant dans un quartier cossu de Hambourg. Il est aujourd'hui âgé de 21 ans. Donc, iranien, quartier cossu, ouais, peut-être quelqu'un qui a fui, une famille qui a fui la révolution du chat en 79. Arrêté le 17 juin 2025, il est inculpé de meurtre, de tentative de meurtre, de coups et blessures, d'abus sexuels sur des enfants et de possession de pornographie infantile 2021 et 2023. Le matériel informatique saisi recèle un monde d'horreur, de perversité, de cruauté inimaginable que les enquêteurs n'ont pas de mots pour définir. Le contenu était si monstrueux que les autorités allemandes ont dû fournir des psychologues aux enquêteurs. Aux enquêteurs. Vidéos et photos défilent sous leurs yeux. Une jeune fille de 12 ans grave un cœur dans sa cuisse. Une autre jeune fille de 13 ans s'entaille à plusieurs reprises la poitrine. Une jeune Canadienne de 14 ans s'insère des objets pointus par voie anale et vaginale. Une petite fille de 11 ans est forcée à commettre des actes d'automutilation sexuelle jusqu'à ce qu'elle soit visiblement maculée de sang. Et puis il y a Eva, 12 ans, déprimée, suicidaire, débauchée en 2021. Sur une vidéo, elle se coupe à plusieurs reprises à la demande du monstre et écrit son nom avec son sang. Sur une autre, l'enfant écrase un petit oiseau, le décortique de sa main tremblante et lui présenté sur un drap avec tigre blanc et un cœur peint dessus, selon ses ordres. Ces atrocités sont conservées par le prévenu comme étant des trophées, comme autant de trophées, et sont partagées aux membres d'un réseau, le 764. Alors, avant d'y venir, juste un petit truc. Le fait de forcer un enfant à tuer un animal, et d'autant plus si c'est un animal auquel il a un affect, parce que c'est un animal domestique, et par exemple dans un environnement très violent, bah finalement c'est le seul être vivant qui est pas malfaisant envers lui. C'est des techniques de torture qu'on voit et de programmation qui sont dans les abus rituels. Hein. Donc ça sort pas de nulle part, et c'est toujours la même chose qu'on retrouve. Continuons. Le réseau 764 participe d'un autre réseau en ligne pédocriminel, comme pour communauté. Tigre Blanc s'inscrit dans cette lignée de sadiques apparue avec le développement d'Internet. Dès les débuts d'Internet, il s'est trouvé des niches où s'exposaient des fichiers de violences extrêmes, images de cadavres mutilés ou textes décrivant de graves abus, le tout accessible dans des forums Usenet. À la fin des années 90, des sites de choc ont émergé avec lesquels les utilisateurs regardaient des vidéos d'accidents graves, de suicides ou de vidéos de décapitation de l'État islamique. Les adolescents étaient déjà repérés comme utilisateurs privilégiés de ces sites. Moi, je me rappelle un truc, ouais, ça s'appelait Evilox. C'était vraiment il y a longtemps. Hein, parce que je suis pas tout jeune non plus. Dans le même temps, une lie pédocriminelle est apparue dans le darknet, téléchargeant un grand nombre de vidéos montrant les abus les plus graves. Avec le réseau 764, une nouvelle forme de brutalité numérique débarque à l'ère des médias sociaux. La violence n'est plus seulement consommée sur le net, elle est produite. Nulle part cela n'est plus clair que dans les tutoriels que les membres de 764 s'envoient, portant des noms dans la veine de Handbook for Sex Extortion, donc petit guide pratique pour l'extorsion sexuelle, ou Suicide Tutorial, voilà, petit petit tuto du suicide. Ils décrivent en détail comment recruter de nouvelles victimes sur le net et comment mener des conversations. Les utilisateurs de 764 recommandent d'approcher des mineurs particulièrement vulnérables et psychologiquement instables. Ce réseau peu structuré et dépourvu d'hiérarchie stricte rend les enquêtes approfondies et les actions policières extrêmement difficiles. Actifs sur Telegram, Discord, les plateformes de jeux vidéo et les forums de discussion, ces membres ciblent et manipulent spécifiquement des mineurs psychologiquement vulnérables. Au sein de ces groupes, les agresseurs s'encouragent mutuellement et partagent des instructions sur la manière de manipuler principalement des jeunes filles. Le facteur déterminant semble être le degré de violence. Plus les actes sont brutaux, plus le prestige est élevé. Je vous rappelle qu'en France, il y a un forum de pédophiles qui s'appelle legarçon.net, la garçonnière, qui existe depuis plus de 20 ans et la police ne peut rien faire parce qu'il y a un vide juridique et ils font exactement ce que je suis en train de dire, hein, se donner des conseils pour faire du grooming auprès des gamins. Passons. À l'origine du groupuscule. 764, les premiers chiffres du code postal d'un lieu au Texas où un jeune de 15 ans fonde le groupe en 2021. Ouais. Vraiment, il a eu l'idée tout seul? Ce garçon frêle aux cheveux roux, B. Cadenhead, grandit dans la petite ville de Stephenville au Texas. À l'âge de 10 ans, ses parents, pratiquants assidus, se séparent. Par la suite, il s'isole progressivement, souffre de crises de nerfs, s'automutile et développe une fascination pour les vidéos de torture. Le père, Jeff Cadenhead, déclare avoir tenté à plusieurs reprises de faire admettre son fils dans un hôpital psychiatrique. Je cite, à chaque fois les médecins ont changé son traitement et l'ont renvoyé chez lui, confie-t-il. Fin de citation. Il quitte l'école en juin 2021 et crée son premier salon de discussion sur 764 le même mois. Sous différentes variantes du pseudonyme Félix, il apparaît régulièrement dans divers salons de discussion Discord, y publiant des images choquantes, incitant les utilisateurs intéressés à le rejoindre sur d'autres parties de la plateforme et harcelant ceux qui réagissaient avec dégoût. Cadenet contourne facilement les mesures de sécurité de Discord conçues pour protéger contre les abus sexuels en ligne. À chaque fois qu'il est banni de la plateforme, il ouvre de nouveaux comptes et poursuit ses activités. En juin 2021, la police de Stephenville reçoit des signalements indiquant qu'un utilisateur du Discord a mis en ligne des images pédopornographiques. Lors d'une perquisition menée l'après-midi du 25 août 2021, la police trouve un ordinateur portable dans la chambre de l'adolescent sur lequel elle découvre des images de filles prépubères se livrant à des actes sexuels, des actes d'automutilation d'adolescentes, de torture sur des animaux de compagnie, d'actes sexuels avec un bébé. B. Cadenhead, aujourd'hui âgé de 19 ans, représente l'un des cas les plus inquiétants de cybercriminalité juvénile aux États-Unis. Il a été condamné et purge la deuxième année d'une peine de 80 ans de prison. Juste une petite. On nous vend une histoire là. Moi, j'y crois pas. Voilà. Le petit de 15 ans, ouais, il était complètement taré, psychopathique, nanana. Il allait sur Internet, et je suis sûr qu'il a un mentor quelque part. Et il a des gens, et il a des amis. Et tous ses amis, c'est des adultes. Et c'est comme ça qu'il a monté le truc. J'y crois pas du tout, mais pas un instant que le type de 15 ans, il a fait ça tout seul. Et qu'il a eu l'idée tout seul. Enfin, que le truc, voilà. Il a par son penchant dégueulasse, ben, un adolescent un peu taré peut faire, ouais, effectivement. Et parce qu'il y a Internet, il a rencontré des gens qui, eux, sont adultes et qui, eux, aiment ces choses-là aussi. Et ils lui ont fait monter et porter le truc. Et c'est évidemment, il en avait rien à secouer. Un, parce qu'il est taré. Deux, parce qu'il a 15 ans. Voilà. C'est mon opinion perso. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais là, on nous revend le prédateur isolé, le truc incroyable qui n'est. Oh, on est face à un nouveau phénomène. Je crois pas, non. Je crois pas. La communauté de cybergroupes violents en ligne cible et manipule des enfants et des jeunes vulnérables sur des plateformes facilement accessibles afin de les amener à poser des gestes violents, notamment à s'automutiler, à torturer, à tuer des animaux ou à produire des images d'exploitation sexuelle d'enfants. Le réseau en ligne, connu sous le nom de The Com, une forme abrégée de community, communauté. The Com est une communauté virtuelle de groupes et d'individus qui exercent des activités illicites et glorifient la violence sérieuse, la cruauté et le gore. Où et comment opèrent-ils? Les prédateurs utilisent tous le même processus de conditionnement. Le contact débute souvent de manière anodine. Les auteurs entament des discussions sur des plateformes de jeux, donc les jeux où on est branché avec le son, hein, pour les gens les plus âgés de nos auditeurs, hein. Donc c'est même pas on s'envoie des messages, des petits messages écrits. C'est pour jouer en équipe ou ce que tu veux. Et bien en fait, tout le monde, les adultes, les enfants, tout le monde entend ce que les gens disent et peut parler. Voilà. Donc en fait, vous mettez vos enfants dans un salon avec des adultes et puis voilà, vous espérez que ça va bien se passer. Vous ne connaissez pas. Donc, en termes de discussion sur les plateformes de jeux, des applications de messagerie, par exemple Discord, Telegram, Roblox, Minecraft, Twitch et Steam. Donc, Steam, une plateforme pour jouer aux jeux vidéo. Twitch, une plateforme de streamer de jeux vidéo. Minecraft, un jeu vidéo. Roblox, un jeu vidéo. Telegram, une messagerie. Discord. Ou via TikTok, Insta. Puis l'escalade suit une logique bien rodée. Les prédateurs montrent une surabondance d'attention et d'affection pour créer une attache émotionnelle. La fausse confiance établie, ils collectent des informations personnelles, adresse, nom de l'école, via des profils publics, puis ils proposent un basculement vers des chats privés, par exemple sur Telegram ou Signal. Lorsque le prédateur a collecté des informations personnelles suffisantes, il passe au chantage. Les options sont nombreuses, menacer de publier du contenu explicite et ou violent, et de l'envoyer aux proches de la victime. Vous voyez, donc le gamin, il n'a encore rien fait là, il n'a même pas divulgué des renseignements personnels de la victime sur Internet de façon malveillante. Faire un faux signalement afin que les services d'urgence soient dépêchés chez la victime. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le swatting. Donc en France, je crois pas que c'est ça, ça est court. Mais aux États-Unis, voilà, tu fais semblant, tu fais un faux appel avec un système, avec un logiciel qui te permet de masquer ton d'où vient l'appel au service de sécurité, et tu dis des trucs du genre oh, mon mari est en train de me tuer, il est en train de tirer, ou je sais pas quoi. Enfin, tu fais croire qu'il y a un meurtre qui est en cours. Et donc les mecs arrivent comme des cow-boys états-uniens, ils défoncent tout et c'est ça. Et en fait, tu te fais swatter, c'est-à-dire que tu fais exprès de faire croire qu'il se passe quelque chose chez l'autre. Et les flics débarquent chez la personne. Et donc souvent, c'est fait sur des streamers, et comme ça, ils voient les flics débarquer en même temps qu'ils regardent le live du streamer qui est en train de se faire swatter ou des trucs comme ça. Bref. Passons. Chez la victime, donc le swatting, donc chez la victime ou à son école, afin d'affirmer leur pouvoir, menacer directement ou indirectement la sécurité et ou le bien-être de la victime et ou de ses proches. Une alerte à la bombe, tout ce que vous voulez. Les victimes déjà fragiles et maintenant isolées sont amenées à se filmer, photographier et ou photographier leurs frères et sœurs ou autres en train de se livrer à donc des poses sexuellement explicites, des actes sexuels, de la torture ou le meurtre d'animaux, y compris des animaux domestiques de la famille. Des actes de violence envers les autres ou l'automutilation, et parfois nous l'avons vu, à se suicider. Les victimes sont également forcées à mettre en scène le nom de leur bourreau avec une lame sur elle-même ou sur un animal avec du sang sur différents supports. Et au fur et à mesure que les photos et les vidéos des victimes sont fournies à leurs prédateurs, celles-ci sont partagées sur le réseau TheCom, humiliant davantage les victimes et créant plus de contenu pour le groupe. Juste sur l'histoire d'écrire son nom avec une lame. Oui, c'est pour avoir des cicatrices et que comme une sorte de tatouage morbide. Par exemple, dans la secte Nexium, ils faisaient marquer avec des fers rouges le gourou là, les femmes et les petites filles esclaves sexuelles. Oui, tout ça n'a rien de nouveau, on connaît bien. Continuons. Ce qui importe le plus pour ces prédateurs est d'acquérir de la notoriété dans le réseau. Les actes de torture étant considérés comme des victoires. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un côté jeu vidéo en fait. Jeu vidéo de réel, pas réel, on sait pas trop, de toute façon c'est loin, ça peut pas me toucher. Oui. De déresponsabilisation, finalement ça n'existe pas vraiment. En fait, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Bien sûr, mais tout ça c'est ce qu'on se raconte. Hein. Cette violence numérique est particulièrement brutale car elle se produit là où les enfants devraient se sentir en sécurité, chez eux. Tout à fait. Chez eux où leurs parents ne devraient pas rendre ce genre de choses possible. Des parents dignes de ce nom. De plus, l'anonymat qui en découle engendre un profond sentiment d'impuissance, explique Saskia Nakari, consultante en éducation aux médias, en centre des médias de la ville de Stuttgart. Il n'y a pratiquement plus d'endroit où se réfugier, plus d'espace sûr, et tout cela se passe alors que les parents sont juste dans la pièce d'à côté, impuissants, non pas impuissants, ignorants, ou pas vigilants. Après, comme c'est pas énormément dit là, mais évidemment que ce sont toujours des enfants qui sont en difficulté sociale, des enfants où la présence parentale est faible, voire famille monoparentale, voire casseuse, voire enfin en tout cas des enfants très isolés, très négligés. D'ailleurs, c'est pas forcément une question d'argent, mais en tout cas très isolés, très négligés, et qui du coup bah, sont en recherche d'affection. C'est la même chose que la pédophilie, sauf que là c'est pas que ça, c'est aussi pour l'enfant se tue lui-même, ce qui est quand même un truc symboliquement, je sais pas si c'est vrai que c'est choquant. On passe à une petite partie donc de signes précurseurs, donc un peu de prévention justement. Enchaînons, on va pas faire que du négatif, on va pas culpabiliser des parents qui potentiellement sont déjà finalement les victimes également de ces choses-là, mais qui eux ont les moyens de se défendre, contrairement aux enfants. Signes précurseurs, voici quelques signes qui montrent que votre enfant pourrait être une cible. Allez, on y va, une petite liste. Votre enfant se sert d'applications mobiles comme Discord ou Telegram ou d'autres plateformes de communication chiffrées auxquelles vous n'avez pas accès en tant que parent. Donc pas de regard éventuellement. Ça, l'enfant, il le sait. Il sait là où vous pouvez regarder ou pas regarder. Donc il y a un moment donné, il faut se cultiver. Les animaux domestiques de la famille ou d'autres animaux se blessent ou meurent de façon suspecte. Votre animal domestique évite ou craint votre enfant ou vous-même de façon inhabituelle. Votre enfant manifeste de l'intérêt pour les opinions extrêmes en ligne. Votre enfant manifeste soudainement de l'intérêt à mettre en doute ou à rejeter les contraintes morales qui touchent à son comportement et s'intéresse au nazisme, aux tueries dans les écoles, aux tueries en série ou à l'occultisme. Voilà, du coup, il y a une petite teinte USA. Vous trouvez des inscriptions faites avec du sang ou ce qui semble être du sang. Votre enfant a un nouvel ami ou réseau en ligne dont il semble obsédé et passer énormément de temps et ou craindre ce nouvel ami ou ce nouveau réseau. Bon, ça c'est quand il vous en parle, mais enfin la plupart du temps il ne vous en parlera pas du tout. Votre enfant reçoit des cadeaux anonymes, des articles livrés chez vous, de l'argent comptant, des cartes cadeaux à utiliser dans des jeux vidéo ou d'autres cadeaux virtuels. Ouais, bon, ça c'est le gars pas très malin quand même. Votre enfant couvre sa peau de manière inhabituelle. Donc ça c'est par rapport aux cicatrices, à l'automutilation. Votre enfant porte des bandages, des coupures, des taillades dans la peau, des entailles faites avec une lame, des marques de coups, de couteau et autres. Votre enfant est plus silencieux et renfermé qu'à l'habitude. Il y a un changement de comportement assez brutal qui s'est fait en quelques semaines, quelques mois. Votre enfant est excessivement de mauvaise humeur ou à cran. Les résultats scolaires de votre enfant chutent, sans explication. Ni de la part des profs, ni de vous, comprenez pas pourquoi. Avant ça marchait, ça marche plus. Votre enfant passe plus de temps sur Internet sans supervision ou seul dans sa chambre. Bon, ça c'est dans tous les cas. Votre enfant dépense plus en ligne ou demande de l'argent plus souvent que d'habitude. Bon, oui, mais bon, si vous avez compris tout ce que je viens de dire, le mec c'est pas de l'argent qui va extorquer aux petits. Enfin, ça c'est une manière de se faire choper. Ça c'est complètement stupide. Votre enfant griffonne des noms et ou des chiffres dans des carnets. Mais il y a beaucoup d'agresseurs stupides. Votre enfant griffonne des noms et ou des chiffres dans des carnets, son agenda et son journal intime ou sur des feuilles de papier. Pris individuellement, ces signes ne semblent peut-être pas significatifs, mais si on en combine plusieurs ou en tenant compte de l'ensemble des circonstances, ils peuvent être révélateurs et donner des raisons de s'inquiéter, ce qu'on appelle un faisceau d'indices, quand on est dans un vocabulaire plus policier ou d'enquête. Les parents, tuteurs, adultes de confiance, soyez attentifs à ces signes. Maintenez une communication ouverte avec vos enfants sur leurs contacts, surveillez leurs activités en ligne, familiarisez-vous avec les applications et les technologies qu'ils utilisent. Du coup, je me permets de rebondir. Donc là, donc c'est bien une liste de signes précurseurs, enfin c'est ça, de comportements évocateurs, on va dire. Par rapport spécifiquement à ce qu'on vient de traiter, c'est-à-dire de forcer des enfants à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire à travers un écran sans forcément de contact physique avec un pédo. Maintenant, il y a des choses qui se recoupent aussi dans cette liste, donc c'est comment les signes évocateurs que votre enfant a pu être agressé sexuellement. D'accord? Et donc, je ne vais pas revenir, on a fait des articles de prévention, allez voir, on a fait un livre qui s'appelle La guerre contre nos enfants, on essaie dedans aussi. Voilà, je vous laisse faire. Ce que je voulais souligner, c'est que. La phrase qui est dit pré-individuellement et le faisceau de signes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que faut pas commencer à paniquer s'il y en a un. Non, non, c'est si tout d'un coup, avec un certain timing, sans explication, on a tout un faisceau de choses qui sont dans cette liste et que personne ne s'explique. Voilà, c'est ça qui est absolument déterminant, voilà, même dans une expertise psychologique, etc. Continuons. Et maintenant. Or, l'arrestation du meurtrier, cette histoire a-t-elle porté ses fruits? Oui, et puis ce réseau-là, c'était pas une seule personne. Les autres, il y en avait combien? Où? On va les chercher. La réaction des plateformes. Les parents de Jay attribuent une grande responsabilité à Discord. Ils se préparent à intenter une action en justice contre le serveur. Je cite, Discord a délibérément fait entrer le dark web dans notre maison, a déclaré sa maman. Fin de citation. Ben, vous voyez, bof en fait. Et puis, bah, c'est pas Discord, c'est tout. Il y en a des dizaines de trucs comme ça. C'est tous les jeux vidéo. Leur fils, comme beaucoup d'utilisateurs, a semblé-t-il utilisé une application extérieure pour effacer continuellement ses messages. Oui, mais il ne l'a pas trouvé lui-même. D'après un porte-parole de la plateforme, de tels outils ne sont pas approuvés par Discord. Il n'empêche que, pour le père de la victime, ne pas lutter contre l'utilisation de ces logiciels revient à permettre aux utilisateurs de couvrir leurs traces, de cacher des preuves de leurs jeux atroces et ainsi de favoriser les organisations malfaisantes. Il demande également qu'une armée de modérateurs surveille en permanence les contenus et puisse bloquer les acteurs malveillants. Roblox et Meta ont annoncé mettre en place de nouvelles restrictions basées sur l'âge. Oui. Vers une nouvelle législation. L'affaire a également attiré l'attention politique aux États-Unis. Colby Taylor proposait de témoigner devant la commission judiciaire du Sénat. À la suite de la mort de son fils, les législateurs ont l'intention de tenir les chefs de plateforme comme Discord responsables de leur manque de mesures de protection. Colby Taylor a envoyé à la commission du Sénat une proposition législative de 11 pages. Il travaille sur le règlement qu'il a appelé la loi de Jay depuis qu'il a appris l'étendue de 764 par l'arrestation de Chariard par le juge. Il exige l'introduction d'une infraction pénale distincte pour la coercition numérique et l'extorsion entraînant la mort. La mort de Jay, l'un de ses premiers cas, illustre les défis de l'enquête sur cette nouvelle forme croissante de prédation en ligne. Un examen effectué par le Washington Post et Der Spiegel en Allemagne, donc des journaux mainstream très connus, a révélé que les autorités avaient du mal à identifier les lois qui étaient enfreintes. Ils ont fait face à des obstacles juridictionnels alors qu'ils retraçaient des prédateurs présumés dans des pays du monde entier. En guise de conclusion, ce n'est qu'un début. Partout, des cas récents démontrent que le danger est réel. Allemagne, juin 2025, donc à Hambourg, l'affaire du tigre blanc, White Tiger. En Grèce, avril 2025, le cofondateur présumé du groupe 764 Inferno a été arrêté à Thessalonique. Il sera impliqué dans plusieurs cas d'abus. Et on suppose que c'est pas un adolescent ? France, août 2025, un jeune Français se revendiquant du réseau 764 a été mis en examen et incarcéré. Il est accusé d'avoir réussi à convaincre une cinquantaine de jeunes filles de se scarifier ou de se mutiler à sa demande. Jeune Français, c'est pas mineur, hein ? Canada, février 2026, la gendarmerie royale du Canada a accusé une jeune personne d'avoir participé à des activités terroristes impliquant le réseau 764, récemment ajouté à la liste canadienne des entités terroristes. États-Unis, février 2026, le FBI met en garde les parents contre le réseau nihiliste international 764. Le FBI publie une mise en garde mondiale concernant une hausse spectaculaire, plus 500% d'arrestations en un an des activités du groupe 764. En fin d'article, vous avez un contact, donc les contacts, on va dire, institutionnels. Je ne vous dis pas que vous trouverez votre bonheur, quelle que soit votre situation. Néanmoins, effectivement, si vous avez des choses à dire, notamment sur le réseau 764, l'Office des mineurs, Pharos, voilà, internet-signalement.gouv.fr, c'est par là que ça commence pour donner des infos que peut-être ils n'ont pas. Les sources de cet article, Spiegel, donc des journaux allemands, anglo-saxons, donc Spiegel, Stern, Median, Focus, Tagesspiegel, Washington Post, Gendarmerie Royale du Canada, Global Network, Epoch Times. Allez, l'équipe anti-pédo, on lâche rien, courage, on les aura.